Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotion avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, bienvenue dans une semaine formidable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Deniaud et Pierre Forest. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Au sommaire de cette émission du football avec un focus sur les 8e de finale aller de la Ligue des Champions et la 25e journée de Ligue 1 et du rugby avec la 4e journée du tournoi Destination. Et après la pub, nous commenterons les autres résultats sportifs de la semaine et nous terminerons comme d'habitude par les coups de cœur de nos invités. On va commencer par vous Olivier Deniaud et le football. Le supporter du PSG que vous êtes a dû être assez frustré du résultat de cette semaine en Ligue des Champions. Le PSG s'est incliné 1-0 au Parc après avoir dominé tout le match.
Oui, complètement, parce que dominer, je dirais que le mot est faible, dominer, parce que c'était vraiment un grand match. Si on regarde au niveau des statistiques, je crois que c'était 17 tirs.
27 tirs.
27, ouais, je suis loin du compte, et un seul pour Liverpool. Et donc, Liverpool, on sait qu'à la dernière minute, il l'a mis au fond. Mais c'était un match avec une grosse intensité, puisque Paris, en plus, a monopolisé le ballon. Il y a plus de 60% de possession de balle. Alors, on sait très bien que ça ne veut pas dire que dominer n'est pas gagné, évidemment. Mais là, en l'occurrence, Paris est sur une très, très belle dynamique. Et puis, il a manqué quelque chose. Mais de l'autre côté, il y avait quand même un extraterrestre. Hein. Le gardien était quand même fantastique, quoi.
Alisson, qui a fait vraiment un match exceptionnel. Il le dit lui-même, j'ai fait probablement le match de ma vie.
Ah oui, c'est ce qu'il dit. Le meilleur match de sa vie aujourd'hui. J'espère que c'était le meilleur match de sa vie.
Alors, a priori, ça s'est moins bien passé ce week-end. Hein. Il est un peu l'auteur d'une boulette sur le premier but qu'ils encaissent, Liverpool. Mm. Mais effectivement, le PSG a largement dominé. Surtout, le PSG a rassuré, j'ai envie de dire, les observateurs. Tout le monde se posait la question de savoir si ce PSG était au niveau de Liverpool. Je pense que le PSG a répondu.
Ils sont au niveau, hein, sur le terrain, forcément. Quand on voit ce match, Paris n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Maintenant, ça peut s'arrêter là, on le sait très bien. Hein. Aller gagner à Anfield Road, c'est pas une tâche facile. Tous les anciens qui y ont joué peuvent en témoigner. D'ailleurs, aujourd'hui, je lisais encore un article dans l'équipe, hein, Jean-Michel Larquet qui expliquait que à un moment donné, il allait tirer un corner et qu'il a senti que ça le piquait au niveau des cuisses. Et en fait, ils étaient en train de lui balancer de la scorie sur les cuisses. Et voilà, c'est une façon aussi de déstabiliser les joueurs. Je sais que les supporters anglais sont très présents, et d'autant plus que les tribunes sont très proches des lignes de touche et des lignes de 6 mètres, quoi. Des points de corner, c'est pas évident, quoi. Mais voilà, donc il y aura une grosse pression dès l'arrivée sur ce terrain, dans le Anfield Road, qui est, bah, de toute façon, on sait, hein, les gagner en Angleterre, c'est jamais facile, que ça soit en foot ou en rugby, c'est la même chose. Hein.
Alors néanmoins, le PSG peut être rassuré par la prestation qu'il a livrée, qui s'est rassuré aussi ce week-end en s'imposant à Rennes assez facilement, on va dire 4-1, donc... les attaquants qui malheureusement ont pas été à la fête jeudi matin pour nous l'ont été et se sont rassurés tout de suite. Donc Ousmane Dembélé qui met un doublé en 3 minutes. Donc il y a quand même de quoi être serein avant ce déplacement, ou en tout cas rassuré.
Oui, alors serein, mais je te dis, hein, ça serait à domicile, on peut toujours le penser, mais aller là-bas, c'est vraiment... j'ai pas les stats en tête, mais qui a gagné à Liverpool dernièrement, il y a combien de temps?
Ils doivent pas être nombreux,
peut-être
l'année
dernière.
Il y en a pas.
Mais en effet, en championnat aujourd'hui, Paris déroule. Quand tu regardes les scores qu'il y a eu dernièrement, ils sont placés. Enrique, il a mis du temps à mettre son équipe en place. Il a testé plein de formules. Il s'est fait allumer en début de saison et même l'année dernière. Mais là, il a trouvé la formule magique. Sauf que, quand tu tombes sur le gardien sur lequel tu es tombé, alors c'est sûr qu'il a fait un grand match. Mais derrière, ils étaient solides. Vous savez, la charnière de Liverpool. Avec les deux centraux, là, c'était bon.
Alors, je vais quand même lancer la polémique. Il y avait pénalty ou il n'y avait pas pénalty sur Barcola?
Moi, je te dirais oui, hein, bien sûr. Mais maintenant, c'est pas moi l'arbitre. Hein. Si on peut revenir en arrière.
Pierre Forest, vous qui êtes supporter de l'OM, est-ce qu'il y avait pénalty?
Bien sûr.
Non, au-delà du pénalty, je crois qu'il faut reconnaître, que Paris a vraiment livré un match, on va dire, pas exceptionnel. Le mot est peut-être un peu trop fort, mais un match qui laisse penser qu'au match retour, ils ont leur chance, hein, évidemment, sur le vu de ce premier match. Juste peut-être signaler que, autant vous avez parlé du gardien en face qui a arrêté 27 tirs, autant le seul tir qu'il fallait arrêter de Donnarumma, je le très honnêtement, je ne le trouve pas très bon depuis quelque temps déjà. Et puis là, où on voudrait qu'il soit présent, il est pas. Donc,
il n'a pas eu la main ferme,
dommage.
Comme on dit.
C'est dommage, en dehors du gardien, cette équipe-là, elle mérite, sur le vu de sa prestation au match aller, de bien figurer au match retour, on verra.
Et c'est sûr que Nuno Mendes, là, qui avait muselé le
Mohamed Salah.
D'accord, Mohamed Salah, il a un peu laissé tomber le petit remplaçant, là, qui
ah, il l'a oublié trois secondes.
Ouais, bah ouais, c'est trois secondes de trop, quoi. Voilà. C'est comme ça, on a, je dis, moi, ça me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, le Saint-Etienne-Liverpool, où ils font rentrer un petit rouquin, là, qui s'appelait Fairclough, à la dernière minute, et puis qui élimine Saint-Etienne. En demi-finale, je sais plus, hein, c'était à l'époque. Mais voilà, donc c'est toujours pareil. Hein. Tu domines. Et on craint toujours la contre-attaque et le moindre petite erreur d'appréciation ou les tourderies, parce que bon, Nuno Mendes, il a quasiment fait un match parfait,
c'est aussi.
Il y avait deux minutes de trop et puis voilà.
C'est aussi ça la Coupe d'Europe, c'est aussi le réalisme. C'est-à-dire que on dit toujours une occasion un but. On est loin de ce ratio et ça se paye cash tout de suite.
Ça c'était le football italien qui était réputé dans les années 90 pour bétonner derrière. Ils prenaient pas un but et puis ils arrivaient toujours à en mettre un. Mais c'est un peu ça, c'est ce qui manque encore à Paris. Ils ont été rigoureux, mais voilà. Donc après, comme le dit Pierre, hein, le gardien, il a eu un tir qui était à sa portée, qui était en effet arrêtable, et voilà, il est passé à travers.
Bon, on va enchaîner avec Lille, puisqu'on a un autre club français qualifié pour ses huitièmes de finale de Ligue des Champions, qui est allé faire match nul un partout à Dortmund. Ça se présage un petit peu mieux. On dirait que Lille est plutôt en ballotage favorable pour le match retour au stade Pierre-Mauroy cette semaine.
D'autant plus qu'on sait, c'est pareil, Dortmund, c'est pas évident d'aller jouer là-bas, hein, parce que les supporters, là, je sais pas, ils appellent ça leur fameux mur,
le mur jaune
derrière le but. Donc c'est impressionnant, hein, de se retrouver juste devant, parce que c'est pareil, hein, ça colle les filets derrière, et ça donne vraiment l'impression d'avoir un mur jaune qui...
Et ça fait du bruit.
Qui fait énormément de bruit, ouais. Donc voilà, ils s'en sont sortis, c'est super, hein, partout à l'extérieur, en effet, on peut supposer qu'ils sont en ballotage favorable. Maintenant, les Allemands...
D'autant que Dortmund a perdu ce week-end, je crois.
Dortmund a perdu ce week-end sans se procurer quasiment d'occasion, avec un match totalement indigent. Donc,
ils sont irréguliers, quoi. C'est une équipe irrégulière. Et puis les Allemands, ils sont toujours féroces en Ligue des Champions, ça on le sait, on a testé plusieurs fois. Bon, voilà, ça ne va pas être simple non plus.
Mais si on va faire un tour d'horizon des autres résultats de cette phase aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions, le Real Madrid a battu l'Atlético Madrid 2-1. Un commentaire, Pierre?
Alors c'est difficile, puisque ces deux équipes espagnoles qui se connaissent très bien, qui jouent en Espagne en plus, alors la différence entre le stade où joue l'Atlético et le stade où joue le Real, il n'y a pas beaucoup de différence en termes d'ambiance, etc. Je pense que le match retour va valoir son lot d'excitation, puisque le Real c'est un habitué, mais là on les a sentis un petit peu en dedans dans ce match aller contre l'Atlético. Est-ce que c'est le fait de jouer une équipe espagnole chez elle, etc., je sais pas, mais on n'a pas vu le même match que contre City, hein, il y a au tour précédent, donc un match qui promet au match retour, je pense que...
Bon. Ouais, tout à fait. Je sais que Diego Simeone, il avait mis vraiment une équipe, c'était un pressing constant sur tout le terrain. Et c'est sûr que l'Atlético peut renverser Madrid. Après, ça va être le duel. Nous, on attend Mbappé contre Griezmann. On va voir ce que ça va donner. Mais ouais, c'est Mbappé, je crois qu'il a encore marqué ce week-end.
C'est ça.
Donc, il a fait un peu taire les critiques parce qu'il n'a pas été très bon sur les matchs de championnat. Mais il fait une belle saison, je dirais, à Madrid.
Une belle première saison, absolument.
Et voilà.
Dans le match suivant, le PSV Eindhoven s'est incliné contre Arsenal chez lui 7-1. Je crois que sur ce match-là, la messe est dite.
Ouais, c'est plié là.
Aston Villa est allé s'imposer à Bruges aussi 3-1. Donc là aussi, on peut penser que Villa Park va clore cette confrontation.
Mais les Anglais, ils ont gagné 3 matchs. Hein. Ouais,
3 sur 3 pour le football anglais. Ouais. Benfica s'est incliné à domicile contre le Barça 1-0. Un très beau but de Rafinha. Dans le duel allemand, le Bayern Munich s'est imposé 3-0 contre le Bayer Leverkusen. Donc là aussi, on peut penser que le Bayern est presque qualifié.
Je crois que c'est plié. Ouais.
Et puis l'Inter est allé gagner 2-0 à Feyenoord, le dernier club italien encore en course et qui donc est en ballottage plutôt très favorable avant le match retour à Milan.
Est-ce qu'il nous arrange puisque les Hollandais sont nos concurrents directs, j'irai
sur l'indice UEFA, absolument,
ouais, qui attribue le nombre de places pour l'année prochaine pour la Coupe d'Europe, la Champions League, et le fait qu'ils aient perdu leurs deux matchs, ça va pas leur apporter de points, alors que nous, bah, j'espère qu'on va. On a déjà
un petit peu d'avance, petit mais peu si d'avance. On pouvait accroître l'avance, ça serait pas mal.
Exactement.
On va passer au championnat très vite. Quel est le fait marquant pour vous, Olivier Denotte, cette 25e journée de Ligue 1?
Oh, je regarde Pierre en face et je lui dirais que c'est la défaite de l'OM pour moi.
Oui.
On s'est fait un peu charrier toute la semaine.
À l'image du match Liverpool
Paris
Saint-Germain.
Marseille s'est incliné à Lens, face à Lens, pardon, à domicile, 1-0.
Voilà, alors
à la toute dernière seconde.
Ils ont dominé aussi, hein. J'ai pas vu le match,
c'est
mais
ça.
J'écoutais, puis j'ai lu les résumés.
Mais bon, si on accepte le Paris Saint-Germain qui est hors concours, on est en tête du championnat. Voilà,
Paris a déjà, je crois, c'est 16 points d'avance pour
alors
Paris.
Effectivement, puisque Nice a raté l'occasion de passer devant l'OM, même, puisque s'ils avaient gagné, au goal average, ils passaient devant. Ils se sont inclinés ce matin, les Niçois à domicile, 2-0 contre Lyon. Ils ont donc raté le coche pour revenir à hauteur de l'OM. Mais effectivement, derrière le PSG qui a désormais 16 points d'avance sur Marseille, le classement est encore très serré pour les places européennes.
Très serré, il y a Monaco qui nie.
Monaco qui marque un peu le pas, qui a fait un match nul à Toulouse.
Et Lyon qui
remonte petit à petit.
Depuis que leur entraîneur a été suspendu.
J'ai l'impression qu'il y a une espèce de solidarité qui s'est créée au sein de l'équipe,
exactement,
au sein des joueurs, depuis qu'ils sont solidaires de leur entraîneur déjà.
Ouais.
Et là, il est suspendu, je ne sais plus combien de mois. Là. Donc,
jusqu'au mois d'octobre. Alors là, les deux entraîneurs, pour l'anecdote, les deux entraîneurs de Nice et
ça a déclenché.
De Lyon étaient tous les deux dans les tribunes.
Hein. Et ça a déclenché une espèce de solidarité entre
ça,
les joueurs.
C'est
ça. Et puis.
Ils ont gagné dans la Coupe de l'UEFA.
À surveiller, je pense.
Et là, Lyon remonte, ouais.
On ne l'a pas dit, mais donc le PSG a battu Rennes 4-1, assez facilement, j'ai envie de dire, hein, sans avoir forcément à forcer. Lille se rapproche aussi des places européennes en battant Montpellier 1-0, oui, Pierre?
Rennes, entraîné par un ancien de l'OM, hein, Habib Bey, donc.
C'est vrai. Qui était arrivé et qui avait gagné deux matchs d'affilée. Ils marquent un peu le pas, mais enfin, ils ont bien remonté un peu au classement.
Lille qui a donc confirmé en battant Montpellier 1-0 son regain de forme. Brest aussi, qui est maintenant, dont le calendrier est allégé de la Coupe d'Europe, semble retrouver un petit peu de l'allant aussi en battant Angers 2-0.
Il a marqué le pas après son élimination.
Gagne,
ils repartent vers l'avant là. Ce qui est logique, souvent, c'est ce qui se produit quand un club est éliminé de Coupe de France.
On va enchaîner avec le Nantes d'Antoine Comboiré qui, malheureusement, a perdu à domicile contre Strasbourg 1-0. Strasbourg qui est aux portes de l'Europe, désormais, en enchaînant les victoires.
Ils sont sixième, je crois, non ?
Ils sont septième, exactement. Auxerre a battu Reims à l'extérieur, donc 2-0. Et dans le match de la peur entre Le Havre et Saint-Etienne, il y avait eu match nul, un but partout. Ouais. Qui n'arrange personne, finalement, mais un point de prix quand même pour les Havrais et les Stéphanois qui étaient 16e et 17e et qui restent dans ces positions avant la prochaine journée.
Je dirais que la puissance du port du Havre n'a pas été assez efficace sur ce match-là.
Au classement, on a donc le PSG en tête avec 65 points, avec 16 points d'avance sur Marseille 2e et Nice est à 3 points de Marseille. Derrière, on a un tir groupé entre Monaco et Lille à 44 et Lyon à 42. Dans le bas du tableau, Nantes a donc 24 points et 14e, Reims 22 points 15e, Le Havre 21 points 16e, Saint-Etienne 17e avec 20 points et le dernier est Montpellier et ça semble presque déjà dit pour les Montpellierains, 18e, 15 points, déjà 5 points de retard sur
il reste 9 matchs. Il reste 9 matchs.
Il reste 9 matchs, exactement.
Pas évident, hein. Quand tu mets 15 points en 25 matchs,
il y a peu de probabilité d'en remettre à peu près autant en 9 matchs.
C'est ça.
La prochaine journée avec un certain PSG-OM pour clôturer cette journée du dimanche 16 mars, cette 26e journée. Messieurs, vous qui êtes supporters de chacun des deux clubs, alors, un petit pronostic.
L'OM va faire le coup de Liverpool, donc on va gagner 1-0.
Mais moi, je te dirais que ça dépend du match, ça dépend du résultat de Liverpool.
Faire attaquer.
Ouais, ouais. Mais tu sais pas comment on peut réagir une équipe. Enfin, c'est, je sais pas. Si Paris se fait éliminer, le championnat.
La logique voudrait que. Ouais, comme il n'y a pas de logique en Paris. Sport.
Mais, ouais.
Eh bien, on suivra ça.
On va suivre ça.
Cette semaine, alors, le PSG joue mercredi matin contre Liverpool, Lille jeudi matin contre le Borussia Dortmund, et la journée de championnat sera le week-end prochain. Et si on va passer au rugby, là aussi avec une actualité assez intense, c'était la quatrième journée du tournoi Destination. Et Pierre Forest, l'équipe de France, s'est imposée de belle manière sur l'Irlande, en Irlande, 42-27, et a pris les commandes de ce tournoi avant la réception de l'Écosse samedi prochain pour le compte de la dernière journée. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des moins bonnes nouvelles. On va commencer par les bonnes nouvelles. 5 essais, dont 2 pour Bielbarré, qui est toujours aussi impressionnant. Il a peut-être marqué ce que déjà certains qualifient l'essai de l'année, avec son coup de pied à suivre, et ensuite il a mis la mobilette en route.
Alors, peut-être dans le contexte, on ne donnait pas cher des chances de l'équipe de France, mais les différents pronostics, même si on avait toujours espéré que pour ce match-là, c'est le match de l'année dans le cadre du tournoi, les différents pronostics antérieurs à ce match, évidemment, donnaient largement favoris les Irlandais, puisque... Ils sont au classement mondial, ils sont devant l'équipe de France. Ouais. Ils ont perdu deux fois seulement lors des 31 derniers matchs chez eux, à l'Aviva Stadium. Mm. Et les deux dernières saisons, on avait perdu à l'extérieur en 2023. Et on avait même perdu à Marseille l'année dernière lors du tournoi, puisque les matchs étaient décentralisés à cause des Jeux Olympiques sur Marseille, notamment pour la réception de l'Irlande. Ouais. Et évidemment que c'était sans Dupont. Là, cette année, l'équipe, même si elle a été, surtout l'entraîneur, a été très très critiqué par évidemment les différents intervenants, les différents consultants, rugby sur les différentes chaînes, parce que Galtier avait déjà pour le match de l'Italie, avait sorti évidemment Jalibert auprès du numéro 10, et surtout Penaud qui visait le record de Blanco avec 38 essais. Puisque pas pour, mais sur des faits précis, c'est-à-dire des plaquages ratés pour un match, c'était, je crois, contre les Anglais. Donc, et puis la sortie contre l'Angleterre, même si on aurait dû le gagner 10 fois en le jour, on le gagne. Mais donc l'équipe de France n'était pas favorite. Et puis, même les 20 premières minutes. Les 20 premières minutes, ça a été très dur. Grosse domination irlandaise, notamment en possession et en gain de terrain. Et la France a plié, mais n'a jamais rompu. Et puis, bizarrement, c'est quand Dupont a été blessé à la
29e minute,
qu'on a retrouvé une équipe de France qui a, bien évidemment, qui a tout renversé, qui a repris le dessus. Et là aussi, on parlait de solidarité tout à l'heure. Je crois que c'est cette solidarité qu'on a retrouvée et qui a fait que le cours du match a changé.
Mais moi, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Pierre. Je crois qu'il y a eu une sorte d'union sacrée qui s'est créée au sein de cette équipe. Qui a vécu une espèce d'injustice avec la sortie d'Antoine Dupont, puisqu'il est sorti sur blessure.
Voilà, on va le dire, donc victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit.
Et on le voit bien sur les images télé, enfin moi qui suis passé par là aussi, le genou qui part comme ça, j'étais quasiment sûr que les croisés étaient partis. Du coup, et comme pas de sanction derrière, parce qu'ils étaient quand même à 3 sur lui, il y en a un qui le tenait. Voilà, donc.
Et les 3 joueurs cités à comparaître, ne comparaîtront pas.
Donc je pense que ça peut jouer aussi, l'union sacrée.
Il y a eu cette première mi-temps où le score était serré, rappelez-vous, serré. Je crois que c'était très serré. Une pénalité des Irlandais, je crois, contre un essai transformé, me semble-t-il, une pénalité. Et au retour des vestiaires, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans les vestiaires à ce moment-là, puisque quand ils sont rentrés, ils ont vu Antoine Dupont.
Ils ont compris la gravité de la blessure,
absolument. La gravité de la blessure, etc. Et je crois que c'est une autre équipe, évidemment, avec le changement. Alors que Galtier a été très critiqué également pour son banc. Bonne touche, on a le droit à 8 remplaçants. Il avait déjà initié contre l'Italie 7 avant et 1 3/4. Et là, il a remis sur le truc. Et dès que Dupont se blesse, il ne reste plus qu'un 3/4, en l'occurrence, le poste spécifique de demi-mêlée. Donc c'est
Maxime Lucu
qui est rentré. On avait plus de 3/4. Heureusement qu'il y a des joueurs qui ont déjà joué derrière. On pense notamment au jeune qui est rentré, Jégou, et qui est rentré centre, et puis et surtout Boudéan, qui le 3 de Miguel. Donc on a senti une équipe, et puis le fait d'avoir mis... Alors cet avant, ça lui permet de... Évidemment, cet avant, ça lui permet, au moins des deux premières lignes, ça lui permet de sortir toute la première ligne, qui se donnait à fond pendant 45-50 minutes, d'avoir une nouvelle première ligne qui est très équivalente de la première, de celle qui a joué la première mi-temps, et puis d'une deuxième ligne aussi très concurrente. Avec, et là, il n'y avait plus d'équipe sur le truc. Donc, ce qui a donné, c'est 5 essais, marqué 5 essais en Irlande, dans la Viva Stadium contre l'Irlande. C'est un exploit et très belle performance. Mais sur le vu du match, il n'y a pas de surprise, puisque les Français ont largement dominé ce
Alors, Penaud a dû attendre ce match-là pour égaler le record de Serge Blanco. Il s'est fait plaisir avec un plongeon dont il est friand et dont il a l'habitude entre les poteaux. Il est très jeune encore.
Oui.
Il égale déjà le record de Serge Blanco.
38 essais, oui.
38 essais international. Il peut aller très très haut, Penaud.
Il y a le petit, vous avez parlé du petit Louis Biel-Biarré.
J'allais venir après, on allait y revenir, mais voilà. Sur Penaud, vous pensez qu'il peut atteindre quelle barre en essai international ?
Pour Penaud ?
Oui.
Si on compte que sur une saison internationale, il faut compter 8 matchs à peu près, 8, ouais, 10 matchs maximum pour ceux qui... je pense qu'il en a encore pour peut-être 2 ans, hein, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Je pense que le groupe qu'il a là, c'est au moins de les amener jusqu'à la prochaine Coupe du Monde en 2027 à côté, en Australie. Donc 27, ça fait encore
2 ans.
Deux bonnes saisons avec des matchs. Là, il y a une tournée en Nouvelle-Zélande qui se prépare au mois de juillet pour l'équipe de France. Et puis, eh ben, il y a encore des matchs. Attention, dans le rétroviseur, il a quand même le petit Louis Biel-Biarré.
Exactement, qui est parti sur des statistiques
impressionnantes. Je crois qu'il est à 17 matchs et 16 essais, me semble-t-il.
Exact, je crois que c'est 18-17.
Ouais, ou 18-17. 18 matchs joués, 17 essais marqués. C'est il est très jeune.
Voilà, il est très très jeune.
Je salue au passage la communauté de La Réunion, puisqu'il est originaire de La Réunion. On parle beaucoup des Calédoniens qui sont dans cette équipe. On en parlera peut-être tout à l'heure avec Mouvaka et Calédoniens et des Wallisiens. Moefana, mais il y a aussi Biel-Biarré qui est originaire de La Réunion, et je crois qu'il faut le souligner, il y a vraiment du potentiel ultramarin dans cette équipe de France.
Eh bien, vous l'avez fait la transition, parce que c'était le point d'après, donc effectivement, on a vu un super Moefana.
Il a été, je crois que ça a été le meilleur homme du match, il me semble, hein, par rapport à ce qu'il a fait, surtout en défense, et même lui-même, c'est son meilleur match en équipe de France, il a été stratosphérique des commentaires, des différentes analyses. Il a vraiment été très bon. On le sentait depuis le début du tournoi, en centre. Il n'alternait plus entre position de centre et puis d'ailier. Et là, il s'est bien mis sur le poste de second centre. Là, il a vraiment été très, très bon.
Un petit mot sur les autres Calédoniens et Wallisiens ?
Mouvaka égale à lui-même. Hein. Je crois qu'il a maintenant acquis une certaine régularité dans sa performance, aussi bien dans les lancers que dans le jeu courant. Il râle toujours parce qu'il doit sortir, mais parce que si on l'écoute, il jouerait tout le match, mais à la même. Mais bon.
Bon, ça, ils sont assez nombreux dans ce cas-là. Hein.
Donc, puis il y en a que deux, hein, les deux qui ont joué avec l'équipe de France week-end. Les autres n'ont pas été retenus. Je pense à Taouif et Noir.
Donc voilà, une belle présence calédonienne sur ce 15 de France qui s'est imposé en Irlande. L'Angleterre a battu une vaillante équipe d'Italie, 47-24, dans le dernier match de cette quatrième journée, et se repositionne à la deuxième place malgré tout. Les Anglais font pas trop de bruit sur ce tournoi, mais ils sont là.
On aura une dernière journée très, très spectaculaire, puisque...
Potentiellement, 4 équipes peuvent gagner encore, même si pour l'Écosse...
Au moins 3.
L'Écosse peut, mathématiquement, elle peut. Voilà,
L'Écosse peut, mais elle sera confrontée à l'équipe de France à domicile, en France. Mais l'Angleterre va jouer au Pays de Galles.
Ouais.
On peut penser que là, même si les histoires, l'histoire des deux pays, il y a longtemps, fait que c'est toujours un match très, très engagé, très heurté. Mais il y a une petite différence quand même. Les Anglais vont vouloir gagner et en boucher le bonus.
Offensif.
L'Irlande qui va en Italie, on peut penser là aussi qu'ils ont comme objectif et de gagner et de prendre le bonus. Donc,
et surtout de montrer que le match contre l'équipe de France était un accident.
Voilà. Et là, quand on regarde le classement, l'Angleterre seconde est à un point de l'équipe de France.
Exactement, 16 points pour l'équipe de France, 15 pour l'Angleterre.
Et l'Irlande a un point de les Anglais, 2 points de l'équipe.
Donc ça va peu se jouer sur les bonus.
Il va falloir gagner d'abord et empocher le bonus. Sinon, après, c'est une histoire de goal average, mais oui. Même là.
Au goal average, pour l'instant, les Français sont très loin. Puisque les Français sont à plus 106, les Anglais à plus 20 et les Irlandais à plus
80,
13.
Donc, pour les Français, oui.
Voilà, donc ça fait
c'est le goal average après qui.
Ouais.
Qui
et d'accord. Quand bien même il y aurait égalité, goal average, c'est le match entre les deux équipes. D'accord. Donc là, c'est pas très bon, puisque ça sera contre les Anglais, si tant est que les Anglais atomisent les Gallois chez eux. Mais bon. Qui est bien parti.
On n'a plus qu'à souhaiter que l'équipe de France gagne avec le point de bonus offensif. Comme ça, il n'y aura pas de calcul savant à faire pour savoir
donc,
qui gagne ce tournoi.
Lucu devrait remplacer, évidemment, continuer sur la lancée, remplacer Antoine Dupont. Et là, ils ont fait appel sur le regroupement, ils ont fait appel à Serin.
Baptiste Serin, absolument.
Baptiste Serin qui fait les beaux jours de Toulon et qui tourne bien actuellement avec Toulon. Donc on peut penser que. Il va faire jouer un petit peu l'expérience, même si à ce niveau-là, je pense que ça va être un bon match. Et l'avantage de l'équipe de France, c'est qu'elle joue en dernier.
Elle connaîtra le résultat de ses adversaires, puisque l'Italie rencontrera l'Irlande à 1h15 du matin pour nous, les Gallois, l'Angleterre à 3h45, et l'équipe de France affrontera l'Écosse à 7h du matin pour un super petit déjeuner. À se mettre sous la dent pour les amateurs de rugby.
Peut-être sur l'accident sur Antoine Dupont.
Oui, la blessure.
L'entraîneur français, l'équipe de France avait donc porté à comparaître.
Si on est cité à comparaître deux joueurs irlandais.
Finalement, les trois n'ont pas été. La commission de discipline a décidé de ne pas les faire comparaître. Arguant du principe que c'était pas une faute délibérée, ce n'est encore moins que ça avait été déjà visionné. Là, il y a peut-être quelque chose à dire sur l'arbitrage. C'est que, évidemment, quand on regarde au ralenti, il y a quand même un déblayage sur un ruck individuel, à titre individuel, alors qu'on doit revenir sur le ruck quand il est déjà formé, groupé, en lié, lié avec quelqu'un d'autre, au moins à deux. Ça n'a pas été le cas. En plus, il vient sur le côté, ce qui est interdit. Et ensuite, il se jetait, c'est le dernier règle de World Rugby, se jeter sur les membres inférieurs dans ces regroupements-là. On sait que c'est beaucoup d'accidents. Ça n'a pas été la preuve. Et ce qui est surtout dommage, c'est que l'arbitre a simplement dit à Grégory Aldrit, qui avait pris le capitanat suite à la sortie du pont, avait simplement dit « Mes collègues ont visionné. » Mes collègues, donc, il a porté la responsabilité à ses collègues à la visio. Parce que même l'arbitre de touche n'est pas intervenu, alors qu'il aurait dû visionner en même temps que ses collègues. C'est à lui de trancher en définitive. Ça n'a pas été le cas. On verra comment la World Rugby et la commission de discipline va statuer après.
Après, il va se retrouver avec au minimum 6 mois d'arrêt.
C'est ce que j'allais voir. Antoine Dupont est parti pour 6 à 7 mois.
C'est tombé là. 7 à 8 mois d'arrêt. Donc, évidemment, le tournoi est fini pour lui. Le Stade Toulousain, ils sont en train de chercher à savoir s'ils le remplacent ou ils font avec ce qu'ils ont déjà dans les. Qui ont assuré pendant qu'Antoine était avec l'équipe de France. Donc, il y a le top 14, au moins. Il y a la Champions Cup avec Toulouse toujours. Donc, c'est Toulouse qui va en pâtir.
Pour l'instant.
Et la tournée de l'équipe de France au mois de juin en Nouvelle-Zélande, il ne fera pas. Donc, il va revenir octobre-novembre. Voilà, si tout se passe bien.
Dans le meilleur des cas, oui.
Sachant qu'il avait déjà connu cette blessure.
En Irlande, déjà.
Voilà.
Donc, la même blessure. Donc,
L'histoire se répète, malheureusement, pour Antoine Dupont, à qui on souhaite un bon établissement. Mais si on va passer au bref de cette semaine, il y a à Indian Wells le Masters 1000 de tennis qui a débuté en milieu de semaine dernière. Et quelques surprises d'entrée de jeu, puisque par exemple Novak Djokovic a été éliminé d'entrée par le Néerlandais Van de Zandschulp, ce qui lui était pas arrivé dans un Masters 1000 depuis très très longtemps. Est-ce que vous pensez que ça commence à sentir la fin pour notre ami Djokovic?
Moi, je dirais que c'est pas forcément la fin, c'est une question d'état de forme du moment, et que plus on avance en âge, oui, en effet, on peut pas être au top 24 heures sur 24 et toute l'année.
On rappelle qu'il va avoir 38 ans.
Ouais, peut-être qu'il choisit ses tournois, tout simplement.
De toute façon, effectivement, aujourd'hui, il y a priorité au tournoi du Grand Chelem et au Masters 1000.
Que c'est sa nouvelle collaboration avec Murray, qui était aussi, qui le connaît très bien, puisqu'il l'avait affrontés sur les différents terrains. Donc,
c'est ça. Et donc, collaboration qu'ils ont démarré à l'Open d'Australie, qui pour l'instant n'est pas hyper fructueuse.
Privilégier les grands tournois plutôt que les petits, justement.
C'est ça. Alors, c'est un grand tournoi, hein, c'est un Masters 1000. Ouais, on a Zverev qui est passé à la trappe aussi au premier tour contre le néerlandais Kriegsport. Donc là aussi, Zverev avait un peu une opportunité de reprendre un peu de points, puisqu'il est deuxième mondial sur Sinner pendant la suspension de Sinner. Eh bien, bien c'est raté pour l'Allemand, hein, éliminé d'entrée. Donc,
là, c'est plus surprenant, je trouve.
Ouais. Oui, quand on connaît la régularité de Zverev, c'est effectivement assez surprenant. Mais Kriegsport n'est pas non plus un inconnu. Hein. Il est aujourd'hui dans les 35-40 mondiaux. Je crois qu'il s'est fait un petit plaisir d'être un peu celui qui fait pas mal de surprises sur le circuit en une année. Côté français, malheureusement, Hugo Humbert a été éliminé ce matin par le Danois Holger Rune au troisième tour en 3-7. Un match très accroché, mais malheureusement perdu par le français. Tout comme Giovanni Impecci-Péricard, qui a perdu aussi ce matin, donc deux défaites. Heureusement, Arthur Fils a redonné un peu de couleur au tennis français ce midi, en battant l'Italien Musetti. Et il affrontera Riron, l'Américain, en huitième de finale. Donc un Français sur les trois en huitième. C'est pas celui qu'on attendait, forcément, pour le coup. Mais voilà, un petit commentaire sur nos tennismans français.
Non, on attend encore la perle rare qui va remonter au sommet du tennis. Hein,
c'est encore mon fils.
C'est mon fils, c'est ça. C'est toujours mon fils. Hein,
j'en ai pas parlé, mais effectivement, Gaël Monfils a joué hier. Il est encore qualifié. Ouais. Ils ne sont pas sur la même partie de tableau, donc ils ne jouent pas le même jour. Mais Gaël Monfils est encore en course, lui aussi, dans ce tournoi d'Indian Wells.
Parce que mine de rien, quand il se présente dans des tournois, il ne fait pas que de la figuration. Hein.
Ah, il est plutôt performant.
Oui. Après, il en fait moins que les autres, et ce qui explique peut-être sa place.
38 ans aussi.
Pareil, il a 38 ans. Ouais.
38 ans, tout comme Djokovic. Mais si on va passer au biathlon, et alors là, le drapeau français qui flotte sur toutes les épreuves, ou presque, de biathlon, presque depuis le début de saison, et voire plus. C'était l'étape de Coupe du Monde à Nové Mesto, en République tchèque, ce week-end. Les hommes se sont imposés... tout comme les femmes sur le relais, l'épreuve du relais dimanche, les hommes sont imposés devant la Norvège et l'Ukraine, tandis que les femmes ont devancé la Norvège et l'Allemagne. Donc on voit que la France a même pris le dessus en termes de nation sur la Norvège, qui est assez impressionnant quand on connaît la culture du biathlon dans ce pays.
Mais maintenant, c'est devenu aussi une culture française. Hein,
exactement.
Et ça se succède, il n'y a pas de problème. Hein. Il y en a un qui arrête, il y en a deux qui arrivent derrière. Et puis surtout en relais, hein. il faut du nombre. Hein. Du nombre pour le relais.
Je vais étayer vos propos, Olivier Deniau, exactement, puisque samedi, en 10 km poursuite, Julia Simon s'est imposée devant la Suédoise Öberg et sa compatriote Océane Michelon. C'est déjà deux Françaises sur les trois places du podium. Il y en a la quatrième est française, et sur les neuf premières, elles sont cinq françaises. Ouais. Donc c'est juste impressionnant.
Et ils sont tous ou toutes douaniers ou douanières.
Hein. pour la plupart, vrai, effectivement.
C'est ça, ils sont employés par les douanes.
par l'administration des douanes, ouais. Exactement. Dans la poursuite homme de 12,5 km, c'est Quentin Fillon-Maillet, a fini quatrième. Il y a quatre Français là aussi dans les 11 premiers. Donc en plus d'avoir des athlètes performants, il y a quand même une densité d'athlètes qui est assez impressionnante en biathlon. Qui s'explique comment, au-delà du fait qu'ils soient douaniers.
Non, mais parce qu'en fait, c'est la douane qui les emploie de façon à pouvoir les libérer pour l'entraînement. Bien sûr. C'est simplement des arrangements, et ils préparent leur reconversion à travers cela. Et ben, y a une dynamique sur ce sport, et qui fait qu'ils génèrent le ski de fond. Ceux qui font du ski de fond ont tendance à aller vers le...
Bascule un peu sur le biathlon.
Le biathlon avec le tir, qui est une spécialité qui est bien entraîné en France. Hein. Je crois qu'on a été chercher les meilleurs là où ils étaient, et c'était pas forcément en France qu'ils étaient à un moment donné. Et ils ont été chercher des spécialistes du tir plus que
en tout cas,
des épreuves combinées. Quoi.
La relève de Martin Fourcade, entre autres, est quand même bien assurée, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes.
Et là, on prépare les Jeux Olympiques d'hiver dans deux ans, donc ça va.
Oui, c'est bon. Ouais. C'est de bon augure.
C'est de bon augure, oui. Puisque dans le ski alpin. Dans le ski alpin, on n'a pas
été... Dans le ski alpin, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement. Ouais. Un dernier mot sur les brèves sportives concernant Tadej Pogacar, qui s'est imposé samedi sur les routes italiennes de la Strade Bianche. malgré une chute assez impressionnante, hein, si vous avez eu l'occasion de la voir. Hein,
il est tombé dans le virage.
Il chute en sortie de virage, exactement.
En descente, j'ai lu qu'il était à plus de 60 à l'heure.
Voilà.
Donc il s'est bien ramassé.
Impressionnant. Ah oui, cette chute-là, tu te relèves pas. Non, il s'est relevé.
Il se relève, il repart, il rattrape son compagnon d'échappée, puisqu'il était déjà échappé avec Tom Pitcock, et il lui met 1 minute 20 jusqu'à la fin.
Il est râpé de partout. Hein.
Le cuissard est déchiré, on a vu, voilà, vraiment très très impressionnant, et donc il semble que Pogacar soit déjà très en forme. Favori du Tour de France, j'ai envie de dire, naturellement, Pierre Forest.
Oui, je vois pas d'autres coureurs qui puissent évidemment rivaliser avec ce genre de coureurs-là. Déjà, tout ce qu'ils montrent là, c'est un avion, comme on dit, hein, dans le jargon, c'est un avion.
Et puis tout seul, c'est ça. Le Tour de
presque
France, il y aura toute son équipe
presque
avec.
Sans coéquipier, exactement.
Là, il l'a fait tout seul, hein. Le retour, impressionnant.
Bon, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Cette semaine, en cyclisme, Paris-Nice a démarré, donc on aura l'arrivée de Paris-Nice en fin de semaine. Messieurs, on va passer à vos coups de cœur pour clore cette émission. Pierre Forest, on va commencer par vous.
Alors, je vais changer un peu, je vais rester dans le rugby, évidemment. Mais je crois qu'on n'a pas parlé on a parlé de l'équipe de France en Irlande, mais on n'a pas parlé de l'équipe de France des moins de 20, qui est l'antichambre de l'équipe de France senior. Ce week-end, ils ont été gagnés aussi, eux, en Irlande, la veille. Et dans cette équipe de France, il y a un certain Kele Tauna qui a joué à l'ouverture, en 10 quand même, en équipe de France. Et Kele Tauna, il me semble, hein, je ne suis pas sûr, mais je l'ai su ce matin, il me semble que c'est le fils d'un Kele Tauna qui était ici, qui est maintenant installé en France, mais qui a fait les beaux jours de l'ECRM, le rugby du Mont-d'Or à l'époque, ça s'appelait le RCM, Christian Blanc. Donc, étant en équipe de France des moins de 20, c'est quelqu'un à suivre pour les années prochaines. Donc, c'est un chapeau.
Donc, on va lui souhaiter de rapidement aussi intégrer l'équipe de France A. Olivier Degnaud, votre coup de cœur ?
Alors, j'en ai un et demi, on va dire. Le premier, c'est par rapport aux résultats des championnats d'Europe indoor en salle d'athlétisme qui ont eu lieu. Alors, bon, largement devant, c'était en Hollande. Hein. Les Hollandais ont tout raflé, les Pays-Bas ont tout raflé. Et l'équipe de France, mine de rien, a ramené 8 médailles au total. Pas de médaille d'or, mais 8 médailles, ce qui est un petit rebond, on va dire, un petit sursaut après les résultats
de Paris.
Des Jeux Olympiques de Paris, où on n'a eu qu'une médaille d'argent sur les haies. En plus, on a une blessée, là, la petite Bapté, qui était favorite, était malade. Et puis, au cours de ces championnats, il y avait donc deux ou trois épreuves handisport qui étaient intégrées, et dont deux Français qui ont participé. Bon, c'était des épreuves hors championnat. Et puis l'autre, c'est le deuxième demi. C'était, j'ai sort d'une visio hier soir et je retourne tout à l'heure sur le sujet. C'est les camps d'entraînement pour les Jeux de Brisbane et il est fortement question que pour le para-athlétisme français, on vienne faire un camp d'entraînement et des stages préparatoires en Nouvelle-Calédonie, si tout se passe bien au niveau des installations.
Au stade du Madélé.
Notamment au stade du Madélé, comme tu le dis.
Sans gazon synthétique,
s'il vous plaît. Avec une pelouse et éventuellement une piste en mondo, si ça se produit, ouais.
Bon, voilà. Eh bien, là aussi, on va suivre toute cette actu avec beaucoup d'intérêt et on espère effectivement que l'équipe de France pourra venir poser son camp de base avant Brisbane,
à Nouméa. C'est dans les tuyaux.
Messieurs, merci beaucoup de votre présence ce soir et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine formidable.
Au revoir.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine formidable sur Radio Rythme Bleu.